Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Nous sommes... D'abord, je vais peut-être parler des sujets. Hein. On va parler du Rabbit Air 1 qui s'est fait démasquer. On va voir. Un petit peu complexe comme histoire. Hein, Rabbit Air 1, petit boîtier bourré d'intelligence artificielle générative. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et on démarre tout de suite. Est-ce que vous avez des petits lags dans les génériques ? Parce que moi, je les ai en retour ici. Je demande surtout à la modération si vous pouvez me faire un retour. Ouais, vous avez eu des lags. Ok. Bon, bah, va falloir faire avec parce que j'aurai pas le temps de réparer avant de partir. Voilà. Hein ? Au moins, ça, c'est réaliste. On verra ça en juin. Hein. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, pas encore parti au Japon, je pars dans 10 jours. Voilà, c'est le jet lag, on va dire ça. Ouais, non, on est en train de faire le ménage justement sur notre Google Drive. Bon, pour vous expliquer, hein, parce que c'est intéressant, c'est de la tech. On est en train de faire du ménage sur le Google Drive parce qu'il est probable qu'on ait pas mal de fichiers à partager entre le Japon et la France, parce que Yanis, lui, reste en France. Karina et moi, on sera au Japon. On va continuer à faire des vidéos. Bref, c'était le bon moment de faire le ménage. Mais depuis qu'on a fait le ménage, j'ai vu que les génériques sont dans le Google Drive. Je ne sais pas pourquoi il lag. Yanis le punit. Vous pourrez penser à lui, ouais. Ouais. Il va... En plus, il va devoir monter des formats courts du Japon en restant en France. C'est vraiment la punition, quoi. C'est vraiment la punition pour Yanis, effectivement. On va dire que on verra la prochaine fois. Yanis vient d'arriver dans l'équipe. Puis, ça coûte cher, hein, voyage au Japon. Même si le yen est très bas... voilà, ça coûte cher quand même. Voilà. On verra. Peut-être qu'on va, si le yen continue à baisser, on va installer les studios au Japon, hein. Ouais, on va faire un tournage au Havre, Yanis. C'est bon, on t'embarque. On t'embarque. Je ne sais pas s'il y a des réductions de train pour le Havre. Exactement. Oui, on a un abonnement ouais, pour Google. On s'en sert beaucoup hein, du Google Drive. C'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que ça a ses limites en termes de sécurité, on va dire. Guillaume avait fait pas mal de vidéos sur le sujet. Mais oui, ça reste quand même très pratique. On a un abonnement entreprise à Google. Voilà. Faites un combo avec Julien Chiez. Pourquoi il s'est installé au Japon, lui ? J'ai pas suivi, hein. J'avoue que je suis pas un fervent... Je fais pas partie des détestateurs de Julien Chiez, mais je regarde assez peu son contenu. Jérôme va faire le plein de mangas papier. Je suis pas très manga. Marion est très manga. Enfin, beaucoup plus que moi. Karina aussi. Moi, c'est pas vraiment ma culture. Hein. Je l'ai déjà dit, mais peut-être dans des jeudis contributeurs. D'ailleurs, jeudi contributeur ce soir. Il y a plein de choses qui m'intéressent au Japon. La bouffe, l'histoire. Plein de choses. Mais même si, bien sûr, j'en connais quelques-uns et j'aime bien... Mon enfance n'a pas été bercée par la culture japonaise. Je ne sais pas si c'est ta question, Nounix, mais c'est vrai que quand tu regardes le prix au Japon des appareils Apple, on devrait aller au Japon rien que pour acheter nos iPhones en ce moment. Après, ça pose des problèmes de TVA. Et il y a une chose, c'était Mitsu qui le disait, ou Tev, je ne sais plus. Tu as du mal à acheter quand tu n'as pas la nationalité japonaise. En tout cas, ils aiment. Si tu demandes voilà, duty free sur un produit Apple au Japon, ils ne vont pas te faire passer en prio pour l'iPhone, par exemple. Je crois que c'était lui qui disait ça. Il y a le son de l'appareil photo sur les iPhones japonais, ouais. Ouais. Je sais pas comment ça... C'est intéressant. Je sais pas comment ça se passe après quand tu le localises en France, quand tu le réinstalles en France. Est-ce que le son de l'appareil photo disparaît? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est dans le firmware spécifique du hardware ou si à partir du moment où tu installes un iOS français, le bruit de l'appareil photo, il garde le son. Ah, ce serait presque intéressant d'en avoir un. Il y a beaucoup de youtubeurs qui partent ce mois-ci pendant un mois au Japon. Ben, c'est, alors, nous, c'est le hasard. Hein. Nous, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'avec la baisse très importante du yen, le Japon, qui avait la réputation il n'y a pas si longtemps d'être un pays extrêmement cher, ben, c'est plutôt intéressant. On ne va pas vous mentir. En principe, comme société, tu peux acheter hors TVA à l'étranger. Oui, mais c'est compliqué, on va dire. La comptable n'aime pas trop ça. La Golden Week, c'est en ce moment hein, au Japon, je crois, sans me tromper. Tous le même sponsor, vol charter, influenceur. On va finir par... Ouais, non, mais je sais, hein, pour suivre sur TikTok, le problème, c'est que là, il paraît notamment que Kyoto, c'est l'enfer absolu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Non, Pépé est rentré, ouais. Oui, n'oubliez pas que si vous achetez un truc à l'étranger, vous êtes censé le déclarer à la douane et payer la TVA. Non, mais nous, on le testerait au Japon. On y resterait. Après, je pense que le problème spécifique du Japon par rapport au tourisme, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est qu'ils n'ont pas l'infrastructure prévue. Parce que quand on regarde dans les chiffres, ils ont moins de touristes, par exemple, que la France. Nous, moi, je peux parler pour Paris. Oui, on souffre un petit peu du surtourisme à certains endroits de Paris, mais globalement, ça va. Le problème de Kyoto, je pense que c'est pour ça que c'est flagrant, c'est que Kyoto, c'est quelques rues très étroites, très connues, où tous les touristes vont. Il y a des endroits comme ça qui sont sur tous les guides et tout le monde se retrouve là-bas. Et c'est très étroit, ouais. Et ils ont fermé certaines zones parce que les touristes avaient des comportements inciviques, notamment avec les geishas, en les prenant pour des attractions touristiques, alors que c'est des artistes, les geishas, et elles font leur boulot. Et donc maintenant, on ne peut plus aller dans le quartier des geishas à Kyoto. Non, c'est grand Kyoto, mais les endroits où les touristes veulent aller, c'est relativement concentré. Il y a des trucs à éviter à tout prix maintenant, genre le pavillon d'or ou la fameuse bambouseraie. Il paraît que c'est un enfer absolu, quoi. Donc nous on n'ira pas. Hein. On achètera la carte postale, je me collerai dessus avec l'IA, et je ferai « Ouais, j'étais dans la bambouseraie, yeah, super. J'étais devant le pavillon d'or, yeah, super. » De toute façon, aujourd'hui, avec l'IA générative, vous pouvez créer vos souvenirs, hein, si vous n'allez pas... Parce que, alors, je donne un exemple, le pavillon d'or, c'est une photo hyper connue à Kyoto. Tous ceux qui y vont vous diront, c'est super décevant. T'y vas, il y a un endroit pour prendre la photo et c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu peux même pas visiter l'intérieur du pavillon d'or et c'est pas hyper intéressant et c'est bondé, quoi. Donc, je dis ça à moitié en rigolant. Tu veux ta photo devant le pavillon d'or, prends une carte postale, la photo elle sera toujours mieux faite que la tienne et tu te colles dessus. Et voilà. Pourquoi te faire chier ? Non, c'est ma deuxième fois au Japon. J'y suis allé, si vous vous souvenez que vous avez vu la vidéo. Vous pouvez aller la voir, d'ailleurs. J'y étais allé il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais très rapidement, c'était 4 jours à Tokyo. C'était pour tester un appareil photo de Panasonic, le S5 II. Ouais, flou gaussien, arrière-plan, c'est bon. Colle-moi une geisha, une petite tenue de samouraï, et c'est bon, bon, le souvenir. En fait, ça serait presque un bon sujet de vidéo. A-t-on encore besoin de faire des photos souvenirs ? C'est une super question. Est-ce que c'est important d'être allé à un endroit pour dire j'y suis allé ? Est-ce que l'homme des cavernes pourrait générer sa main contre le mur de la caverne ? Et si on faisait le sommaire ? Ah, heureusement que nous avons le gardien du mug. Hein. Samuel, c'est un peu le père Fouras. Hein. Il a toutes les clés, en fait. En fait, comment ça s'appelle déjà le jeu au Japon, là, où on fait tomber des billes ? Merde. Ah. Le luxe, ça va être de plus aller en vacances, ouais. Le pachinko, ouais, le pachinko. En fait, le mug, c'est un pachinko avec une bille un peu folle. Et Samuel qui essaye, toute la modération qui essaye de faire... C'est un peu ça. Ah non, moi, j'écoute pas, je suis une bille libre, moi. Je pars dans tous les sens. Bon, un grand merci dithyrambique pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Koala Mouillé, hein, qui reste au sec, Koala Mouillé. Pour ton 15e mois d'abonnement, merci Bistropixel pour ton 38e mois d'abonnement. Merci Jean-Phi pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Steph de FX pour ton Prime d'avant-hier. Voilà, merci à vous les contributeurs. Allez, exclu. Attends, j'ai pas vu. Exclu pour la photo de voyage de Jérôme au Japon. Ah, il faut que j'aille voir. Ah oui. Ah, oh, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique.
Soyo.
Magnifique. Allez cliquer sur le lien de Olek. J'adore. Je trouve que ça me va très bien. Il n'y a que les lunettes qui dénotent un petit peu, mais bon, on va dire, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Oui, c'est des Meiko qu'on voit à Kyoto, pas des geishas, mais je ne voulais pas embrouiller le truc. Des apprentis geishas. Allez, sommaire. Sommaire, de quoi on va parler ce matin ? On va parler du très haut débit gratuit qui arrive dans les avions grâce à Starlink. On en parlera avec Mac Forever. Nous parlerons, et je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais là, il y a de la grosse news. PhoneAndroid.com nous fait un article sur Arc Browser. Je vous en parle dans la dernière vidéo. C'est un navigateur qui, pour l'instant, n'existait que sur Mac. Et ben là, ils sortent un peu tout en même temps. Arc débarque sur Windows et c'est pas dit dans l'article, mais Arc se renforce sur l'iPhone notamment. Je vous en parlerai et je vous dirai pourquoi c'est intéressant. Nous parlerons ensuite avec Frandroid de « On ne comprend plus rien aux décisions d'Elon Musk chez Tesla ». C'est n'importe quoi, et je vous expliquerai pourquoi. Nous parlerons du Rabbit Air 1, donc ce deuxième objet après l'AIPIN de Human, qui était un petit peu attendu au tournant. Déjà pris dans une polémique, on pourrait installer l'application Rabbit Air 1 sur un Android. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, on arrivera justement au nœud du problème. Mais j'aurai mes explications. Donc ça sera avec Frandroid. Nous parlerons rapidement des résultats boursiers d'Amazon, qui va très bien, qui triple, et pas que grâce à Fallout, qui est sa, je crois, deuxième série meilleur score de tous les temps. Mais là, ils triplent leurs bénéfices trimestriels grâce au cloud et à l'IA, et ça sera un article du Telegram.fr. Et nous aurons ensuite, et nous terminerons avec un article sur Emmanuel Macron, pas vraiment Emmanuel Macron, mais pourquoi est-ce qu'on voit Emmanuel Macron qui utilise des iPhones et des smartphones Android malgré les risques d'espionnage. Donc Presse Citron a fait un petit peu un article sur comment ça se passe et pourquoi le président de la République française se permet d'utiliser des appareils du grand public. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ? Hein, on avait déjà eu les histoires avec Barack Obama qui adorait à l'époque les BlackBerry et les iPhones. Voilà un petit peu pour le sommaire du jour. Donc on va commencer tout de suite. On va parler parce que c'est assez intéressant. Alors hélas, je ne vais pas en bénéficier dans mon vol de 15 heures. J'aurais bien aimé. Mais le très haut débit gratuit dans l'avion grâce à Starlink. Effectivement, la particularité de Starlink. Donc Starlink, c'est le système de satellites et la société d'Elon Musk. La particularité, c'est que les satellites de Starlink sont en orbite basse de la Terre à seulement 500 km du sol contre 36 000 km pour les fameux satellites géostationnaires. En fait, l'avantage, c'est que cette proximité permet à la fois des bons débits et surtout une latence très faible comparée à des antennes terrestres. Donc, voilà, les ondes doivent aller moins loin. Donc, en fait, le système Starlink offre une latence très, très bonne. C'est des fameux débits qui sont comparables à de la fibre. Ouais, c'est 15 heures le vol. Le retour, c'est 13h30 sur New. Ça dépend des vents. À peu près 15 heures, je ne sais plus exactement la minute près, mais ça dépend si tu fais le vol aller ou le vol retour. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les premières compagnies aériennes à proposer ce service, dans les premières compagnies aériennes qui testent et qui proposent ce service, il y a Hawaiian Airlines qui a intégré Starlink depuis quelques mois en février 2024. Le Wi-Fi est non seulement rapide du coup dans l'avion, mais en plus il est gratuit. Parce que les coûts pour l'antenne et l'abonnement ad hoc sont assez raisonnables pour un seul appareil, ce qui permet de proposer le service dans le prix du billet avec un supplément bien plus acceptable pour les sociétés low cost. Alors, je pense qu'il y aura des limites de débit. Hein. Je pense que vous ne profiterez pas non plus de votre vol en avion pour télécharger des trucs. Donc oui, il y aura probablement des plafonds, mais a priori, l'installation de Starlink sur un avion coûte beaucoup moins cher que les systèmes Internet actuels, qui sont d'abord pas très bons. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Internet sur un avion. Faut vraiment avoir envie. Hein. Vous ne regardez pas un film sur Netflix. Hein. Ou alors, ça coûte très très cher quand même. Starlink bousille la vue de la voûte céleste la nuit, mais ça permet de regarder TikTok dans l'avion, donc ça vaut le coup. La question se pose et la polémique est là, hein, docteur Rictus. Hein, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est vrai que ces satellites en orbite basse font une pollution visuelle pour l'observation des étoiles, pour les scientifiques et les amateurs. C'est débattable, effectivement. faut le mettre en mode avion. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Après, moi, j'ai toujours eu un... Pour aller dans ton sens, j'ai toujours un... En fait, bon, c'est extrêmement rare que je prenne l'avion. Pour quelqu'un qui fait mon métier, je prends beaucoup moins l'avion que d'autres collègues parce que j'aime pas trop me déplacer, en fait, dans l'absolu. Mais quand je prends l'avion, c'est vrai que c'est un des rares endroits où tu peux bénéficier d'une plage de tranquillité absolue et tu as la meilleure excuse du monde pour pas avoir à répondre à un message. Et je sais que beaucoup de créateurs de contenu en parlent et disent que c'est des moments où on est super productif, tu peux te concentrer sur un montage. C'est une bulle hors connexion, comme dit IMTK. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu peux choisir ou pas de mettre Internet. C'est pas pareil. À partir du moment où tu as Internet dans l'avion, tu as moins l'excuse. Bah, désolé, j'étais en vol, j'ai pas eu ton message. Si vous bossez dans une entreprise ultra connectée, ça veut dire que maintenant, en gros, le patron va vous demander d'être productif pendant vos heures de vol. En tout cas, de rester connecté. Donc, alors, là où je suis partagé, c'est qu'en même temps, par exemple, là pour le Japon, 15 heures de vol, aller, 13h30 retour, ça fait une longue coupure quand même. Quand on dirige une société, ça peut être embêtant en cas d'urgence absolue. Une inondation. Bon, vous me direz, je ne vais pas faire demi-tour non plus. Hein, mais... Non, mais voilà, ça dépend après de votre niveau de responsabilité. Moi, j'ai beaucoup de mode ne pas déranger. Mais même mon mode ne pas déranger le plus restrictif, celui où il ne faut vraiment pas me déranger, s'il y a une urgence absolue, on peut me déranger. Même la nuit, quelqu'un de ma VIP liste, qui est limité à 10 noms, s'il m'appelle 3 fois de suite, la troisième fois, elle sonne. Ça, c'est un réglage que vous pouvez faire. Alors, bien évidemment, vous vous posez des questions sur les ondes. Est-ce qu'il faut que l'avion se mette en mode avion? Est-ce que ça va déranger? Alors, d'abord, il faut savoir que le premier avion qui a été équipé, c'est le Airbus A321neo. C'est le fameux avion, j'en parlais dans un format court, qui consomme 20% de CO2 en moins et qui fait 50% moins de bruit. Donc, ça va un peu dans le sens de l'aviation qui essaye de se moderniser à ces niveaux-là. Et bien sûr, tout ça a été mis au point avec la FFA américaine pour s'assurer que les antennes ne posaient aucun souci en vol et ne perturberaient pas les instruments des pilotes. Il faut savoir que les modes avion, d'après ce que je sais, ça sert plus à grand chose. Vaut mieux le faire. Parce que décollage, atterrissage. Mais de ce que je sais, hein, parce qu'il y a peut-être des avis contradictoires là-dessus, mais il n'y a plus aucun risque de perturber des instruments de navigation. Donc, je crois... Alors, je me trompe peut-être, mais il n'y a pas des compagnies aériennes où tu n'es plus obligé de le mettre, le mode avion. Oui, c'est comme à l'hôpital, c'est une précaution, ouais. Oui, c'est des urgences de famille, il y a quelques urgences. Tu sais, moi, mon business ne tient qu'à un fil, hein. On est pris dans un bad buzz à 3h du matin, le lendemain matin, on peut se réveiller, notre business, il est fini, finito. Donc, j'essaie de pas trop y penser. Mais il y a certaines situations de bad buzz, il faut pouvoir réagir très rapidement. Ou un piratage de données, ou un hack de la chaîne. Ça fait partie des... On n'a pas fait un règlement écrit, mais Certains de la chaîne savent qu'ils peuvent m'appeler même en plein milieu de la nuit si on a ce type de problème. Hein. Oui, le mode avion, par contre, oui, vous faites-le aussi. En fait, un smartphone va avoir tendance à chauffer. Je pense que le problème, il est peut-être là maintenant. Un smartphone va chauffer beaucoup et va être beaucoup sollicité au niveau batterie les quelques minutes après un décollage, parce qu'il va chercher plein d'antennes à toute vitesse pour essayer de rester connecté. Et ça, c'est les moments qui sont les pires, en fait, pour votre smartphone. Oui, bah Air France, il faut mettre en mode avion, ouais. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, et après je vais arrêter les graviers. Je pense qu'il y a un truc, si vous avez déjà pris l'avion, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si vous avez pris l'avion, beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas peur de l'avion, l'avion, l'aéroport, le passage des douanes, c'est des moments stressants. Et je pense qu'il y a une partie du boulot des hôtesses, de l'équipage de l'avion, qui est de nous faire faire des trucs. Tu vois, genre, voilà, mettez en mode avion, machin, remontez vos tablettes, soyez attentifs. Aussi, un peu pour nous faire penser à autre chose. Parce que beaucoup de gens sont stressés au décollage et à l'atterrissage d'un avion. C'est normal. Les douanes, bon, il y en a certains, ça dit ça va, mais moi, par exemple, c'est un truc qui me stresse, les douanes. Parce que j'ai eu des mauvais trucs, obligé de courir en chaussettes dans des couloirs d'avion avec toutes mes affaires qu'on avait tout. Les douanes, t'as toujours ce truc de tomber sur un douanier un peu zélé qui va te démonter tout ton sac et ton avion, il va pas t'attendre. Enfin, bref. Moi, les douanes, c'est un truc qui me stresse, par exemple. Moins le décollage, mais il y en a d'autres, ça stresse beaucoup. Donc je pense que toute cette réglementation, elle est bien sûr sécuritaire, mais elle est aussi pour nous mettre dans un mindset. L'avion n'est pas un endroit naturel pour un être humain quand même, quoi qu'on en dise. C'est un endroit étroit, on est à l'étroit, sauf qu'on est un YouTuber en première, mais moi je suis pas un YouTuber de première. Hein. Bref, je pense que les hôtesses, le personnel navigant est là aussi pour nous mettre dans, nous conditionner. Voilà. Ouais, de toute façon, si vous connaissez les douanes américaines, quand ils ont décidé d'être zélés, ils sont zélés, hein. Et j'ai commis une erreur qu'il faut jamais faire. J'avais oublié de sortir mon ordinateur portable de mon sac. J'avais pensé à l'iPad, mais pas l'ordinateur portable. Et ça, le douanier, il a pas aimé que j'oublie de le sortir. Du coup, il m'a tout fait démonter, quoi. Et je vous jure, parce que c'est véridique, j'ai dû courir dans les couloirs. J'ai pas eu le temps, en fait, de remettre mes baskets. Ça se jouait à la minute près que je prenne mon avion. J'avais presque un personnel navigant qui m'encourageait. Allez, allez, monsieur, vous allez y arriver. Ça, c'est vraiment un conseil voyage important. Ne déconnez jamais avec les douanes américaines. Mais jamais. C'est... Pourtant, hein, je suis allé au Laos, je suis allé en Russie, je suis allé dans des pays communistes. Les douanes les plus chiantes, c'est les douanes américaines. Vraiment. Ouais, bah, bon courage. Hein. Déposer plainte contre une douane parce que t'as raté ton avion. Bon courage. On en reparle. Rendez-vous au tribunal. Ah ouais, et puis les douanes américaines, n'essayez pas de faire le Frenchie second degré, petite blague. Hein. Ils sont 0 degré. Il faut même pas sourire, en fait. Vraiment, hein. Et je pense que tous ceux qui sont dans le chat, qui ont connu notamment les douanes de New York. Les douanes américaines, ne déconnez pas avec les douanes américaines, vraiment. Ah ouais, ouais, ils rigolent avec rien, quoi. Genre, t'arrives, t'as un peu d'eau dans, dans ta gourde, ils vont te faire chier, hein. Ouais, non, non, les douanes françaises à côté, c'est des hippies, hein. Et oui, ils te gueulent un peu dessus, ouais. T'es du bétail, hein. Et c'est très stressant. Ma grand-mère a dit au douanier, c'est bon, vous avez vu mon âge, je vais pas faire un attentat. Ah ouais, non, 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 faites pas l'ironie à la française, genre, oh, ça va, c'est du shampoing, c'est pas une bombe. Là, vous êtes finito, les gars, vous partirez pas, hein. Finito. Non, mais tout le monde a des expériences différentes, mais quand même, je le vois dans le chat, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de gens là, dans le chat, les douanes américaines, on s'en souvient, quoi. Bon, allez, on va pas passer toute la matinée sur cet article, mais c'est rigolo de parler des trucs. Alors, attendez, je veux pas stresser non plus les gens qui voyagent peu ou qui ont jamais pris l'avion. Ça va. Vous n'êtes pas non plus plaqué contre le mur avec un flingue sur la tempe. Mais c'est vraiment un conseil de voyage. D'une manière générale, n'essayez pas de faire de l'humour au moment du passage des douanes. Et notamment des fouilles, l'antiterrorisme et tout. Les mecs sont à cran, ils ont beaucoup de gens à gérer. Et ils savent que quelqu'un qui a quelque chose à cacher va souvent faire de l'humour pour essayer de se décontracter. Donc, vous mettez un gros red flag sur votre tête si vous essayez de vous la jouer cool, quoi. Voilà. Allez, on continue et on va parler justement de Arc. Alors, Arc, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, d'ailleurs, bon, elle marche, mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous intéresser quand même d'organiser vos vacances. Mais bon, on aura tenté. Mais allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je parle notamment du navigateur Arc. Alors, je suis obligé d'en parler rapidement. Samuel, là, vous met le lien vers le navigateur Arc. Ce n'est pas un lien sponsor affilié. Je ne gagne pas d'argent. C'est juste que si vous utilisez ce lien, je crois que vous aurez une icône spéciale parce que c'est moi qui vous l'ai recommandé. Alors, qu'est-ce que Arc ? C'est un nouveau navigateur qui existait pour l'instant que sur Mac. Il était un peu sur l'iPhone, mais dans une version assez primitive. Patatras, il arrive sur Windows maintenant. Donc avant, il était que sur Mac. Et c'est un navigateur sous Chromium. Donc tous vos plugs Chrome, vous pourrez les utiliser dans Arc. Je vais vous dire après pourquoi c'est tellement bien Arc. Et ce lancement, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce lancement est important parce que Arc a été programmé avec Swift, le langage de programmation Swift d'Apple. Et donc, c'est un proof of concept qu'une grosse application, comme un navigateur comme Arc, développée sur Swift, marche très bien sur Windows. Et ça, c'est quand même... Alors, attention, hein, Arc est compatible juste avec Windows 11, pas Windows 10. Donc oui, c'est ce qu'ils disent. L'introduction d'Arc sur Windows n'est pas seulement importante en termes de compétitivité sur le marché des navigateurs, elle est également marquante du point de vue des technologies, notamment avec l'adoption de Swift, le langage de programmation développé par Apple. Ce développement est très intéressant car il ouvre la porte à une plus grande utilisation de ce langage dans l'écosystème de Microsoft. Le travail réalisé par The Browser Company, c'est eux qui sont à l'origine de Arc, pour intégrer Swift à Windows, pour encourager d'autres développeurs à explorer ce langage, qui est considéré comme l'un des plus sûrs pour la programmation d'applications. Il est intéressant de noter que cette transition vers des langages de programmation qui réduisent les risques d'erreurs de mémoire est encouragée par les autorités de haut niveau, notamment celle de la Maison Blanche. En effet, ce dernier est intéressant car il prévient les risques de fuite de données, un caractère qui prend toute son importance dans le climat actuel avec des cyberattaques en croissance. Donc voilà, s'il y a un truc qu'apporte Swift, puisque vous posez la question, c'est que manifestement, c'est un langage de programmation qui réduit les risques d'erreur de mémoire. Donc peut-être que les développeurs dans le chat peuvent confirmer ou pas. Et alors, Arc, je l'ai installé ce matin Rapidos. Je l'ai synchronisé à mon compte Arc. Je vais essayer de vous montrer. J'ai vérifié Samuel, il n'y a rien. Je ne cliquerai sur rien de confidentiel, mais je vais vous montrer un petit peu Arc, si ça marche. Attendez une seconde, hop, voilà. Alors, navigateur Arc, ça se présente un petit peu comme ça, et vous voyez en haut, il n'y a quasiment rien. En fait, vos onglets vont être ici, dans des dossiers. Et vous voyez, si je fais une recherche, n'importe laquelle, voilà. Attendez, yep, je vais me remettre là. Si je fais une recherche, je ne sais pas, YouTube Nowtech. YouTube Nowtech. Hop. Bon, je vais. Est-ce qu'il me connecte ou pas à mon compte? Ouais, direct. Non, là, je ne suis pas connecté. Et vous voyez, ce truc-là m'intéresse. Eh bien, je glisse simplement ça dans un dossier, un petit peu comme si c'était un fichier. Voilà. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça prend vachement de place. Mais pas du tout. Il y a des raccourcis clavier aussi. Hein. Vous voyez, vous pouvez très bien optimiser la surface de navigation. Mais c'est l'exemple que je donnais. C'est normal que notre curseur soit anormalement gros. C'est parce que quand on fait un live pour pouvoir montrer des choses, c'est normal. Bref. Voyez par exemple quand on fait plein, au lieu d'avoir plein d'onglets ouverts, machin et tout, là j'ai que des lignes ici d'URL et après je peux glisser celles qui m'intéressent dans les hôtels, dans les trucs, vous voyez, hein, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Également, il gère les profils et les identifiants. Donc ici, je suis sur mon profil pro. Là, je suis sur un autre profil qui va me servir pour du pro, mais avec l'identité de la chaîne. Donc là, ma Google, au lieu d'avoir plusieurs navigateurs pour gérer plusieurs identifiants Google, là, j'ai juste des profils en bas. Et ici, j'ai mon profil perso. Voilà. Ça, méga pratique. Alors, voilà, on pourrait faire à peu près 3-4 heures. Je suis en train de découvrir un truc qui est vachement bien aussi, c'est que, par exemple, cet onglet m'intéresse énormément. J'en fais un bouton. Boum. Et voilà, j'ai un bouton carrément en haut. Super pratique aussi. Je sais que tout existe, hein. Ils n'ont rien révolutionné. Mais c'est pour ça que je disais en rigolant ce matin à ma modération, Arc, c'est le peak design des navigateurs. Ils ont raffiné les choses existantes d'une manière très élégante. Il y a des tonnes de choses, je ne vais même pas rentrer dedans parce qu'il y a des... Ils ont pris effectivement ce que font tous les autres. Tout ça sous Chromium. Donc, vous retrouvez vos plugins. C'est maintenant synchronisé. Donc, les onglets ici, je vais les retrouver sur mon iPhone, sur mon Mac, sur mon Windows. Tout est hyper paramétrable. Un truc qui est génial, c'est qu'il ferme les onglets tout seul aussi. Alors, je sais, ça existe sur d'autres navigateurs ou des plugins. Là, vous pouvez dire, par exemple, toutes les 12 heures, ferme tous mes onglets. Vous ne les avez pas perdus, ils sont toujours dans l'historique, mais au moins, vous n'avez pas un navigateur qui s'ouvre avec 24 onglets que vous avez eu la flemme de fermer la veille, quoi. Vous avez un navigateur propre à chaque fois que vous l'ouvrez, et ça, rien que pour ça, je trouve ça génial. Donc, je vous conseille d'essayer. Alors, c'est sous Chromium, hein. Vous restez quand même Chromium, hein. Alors, leur business model, c'est une excellente question, Maurice. C'est la première question que vous devez vous poser. En fait, ils ont fait toute une vidéo là-dessus. Eux, leur business, c'est qu'ils vendent une solution Arc aux entreprises pour travailler en équipe, avoir notamment, par exemple, des trucs d'onglets synchronisés dans toute une entreprise et ce genre de choses. Donc, en fait, leur business, il est B2B. Mais du coup, il est dans, complètement dans leur intérêt. C'est-à-dire, ils vendent pas du tout de data et tout. En tout cas, ils ont pris l'engagement dans la vidéo YouTube. De toute façon, c'est pas un moteur de recherche, c'est un navigateur. C'est, il y a une différence, hein. C'est pas un moteur de recherche. Vous pouvez mettre le moteur de recherche que vous voulez. Alors, ils ont des recherches par IA, donc on peut quand même parler de moteur de recherche, mais c'est pas là où ils font leur business. Leur business, c'est vraiment le B2B, business to business, mais ils ont tout intérêt à ce que le B2C, c'est-à-dire vous, que un maximum de gens utilisent Arc pour inciter leur entreprise à adopter Arc comme navigateur personnel. Non, mais DuckDuckGo, c'est... Il y a un navigateur, DuckDuckGo? Oui, il y a peut-être un navigateur, mais DuckDuckGo, c'est d'abord un moteur de recherche. Je pense qu'il y a une confusion entre moteur de recherche et navigateur. Après, attention, ils n'ont pas non plus dit qu'ils ne feraient jamais un système d'abonnement Arc Premium pour avoir accès, par exemple, à certaines choses avec l'IA. Donc, ce sera peut-être leur business model. Ils se sont juste engagés à ne jamais avoir un business model en rajoutant de la pub dans leur navigateur, en vendant vos informations, vos comportements sur leur navigateur pour faire du profilage publicitaire. Oui, mais là, ça ne fait pas les deux. Vous pouvez mettre DuckDuckGo sur Arc, aucun problème. Bah, plutôt que de vous faire un long laïus sur le truc, vous vous demandez quels sont les avantages par rapport à ci, par rapport à ça. Le mieux, c'est que vous essayez. Ne l'installez pas en navigateur par défaut. Moi, depuis un an, hein, Marion, ça fait 6-7 mois que son entreprise, ils utilisent tous Arc. Yanis, quand il est arrivé, il m'a montré Arc, il m'a dit ça, c'est trop bien. Je regardais d'un air un petit peu sceptique, genre, ah, ça va, ouais, ok, t'as ta barre de navigation, t'as tes onglets sur le côté, je vois pas trop la différence. Et en fait, je l'ai testé, notamment pour faire beaucoup de recherches pour le Japon, pour organiser le voyage. Et alors, ça y est, je suis devenu prophète. C'est devenu mon navigateur par défaut. Voilà. Alors qu'avant, j'étais Safari. Donc voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent, en français, fait par des Français, qui vous expliquent pourquoi Arc, c'est bien. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que bah ça y est, Arc maintenant arrive sur Windows. Donc je pense que beaucoup de monde va en parler. Bah Safari, moi j'aimais bien et j'aime toujours, hein, je l'utilise toujours un peu Safari. Mais là, je viens de changer mon navigateur par défaut partout, même sur mon iPhone, parce que je le dis à ceux qui utilisent déjà Arc depuis hier, on peut synchroniser ses onglets entre l'app iOS. Avant, il y avait deux apps sur iOS, il n'y en a plus qu'une pour Arc. Et on peut synchroniser ces trucs, quoi. Ouais, c'est un travail d'ergonomie, hein, surtout, qu'ils ont fait. C'est presque plus un travail du X-Design qu'un travail... Je ne sais pas s'il est plus rapide que Firefox ou quoi que ce soit. Moi, je suis assez sensible au design, à l'ergonomie générale d'un truc, et je le trouve hyper bien fait, quoi. Essayez-le. Et ça ira pas à tout le monde. La réponse facile. Certains d'entre vous vont détester Arc. Voilà, je vous le prévois. une arme, une gamme de cartes graphiques et maintenant un navigateur. Leur vrai nom, c'est Arc Browser, donc navigateur. Oui, oui, je sais qu'on ne me voit plus. C'est pas grave. C'est-à-dire, on me voit. Je reviens sur l'article. Voilà. Allez explorer. Ouais, j'ai oublié de dire, il y a le split screen aussi directement dans le navigateur. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses vachement bien. Plein de choses vachement bien. Donc, essayez. Moi, je ne pensais pas changer de navigateur. Pour moi, les navigateurs étaient à un endroit où il n'y avait plus rien à faire, quoi. Navigateur, ben, preuve en est que si. Allez. On continue. On va parler d'Elon Musk. Bon, ça va pas très bien chez Tesla. 2024, les résultats financiers sont en dessous des attentes. Pour faire face à cette situation, Elon Musk, et ça, on vous en avait parlé il y a quelques semaines, Elon Musk a annoncé le licenciement de 10% des salariés de l'entreprise. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, d'autant plus que Tesla est une entreprise réputée pour son innovation et son avance technologique. Alors, il faut savoir que ça a plutôt plu à la bourse que Tesla licencie 10%, parce que on va pas repartir là-dedans, mais une entreprise qui affiche des mauvais résultats financiers, parfois elle a pas trop le choix. Bref, oula, délicat de parler de tout ça le lendemain d'un 1er mai, mais bref, bien sûr, c'est Elon Musk, donc ça s'arrête pas là. Elon Musk a démenti l'annulation d'un projet de voiture à $25,000. Néanmoins, alors il y avait eu des rumeurs qu'ils allaient lancer effectivement une voiture low cost, Tesla. Néanmoins, le projet a disparu de la roadmap de Tesla. C'est un projet qui aurait pu rendre les voitures électriques accessibles à un plus grand nombre de personnes. Alors, 25, c'est déjà beaucoup, mais c'est moins que les Tesla actuels. À la place, Elon Musk a décidé de mettre le focus sur un robot taxi. Un projet qui serait annoncé en août 2024. Tesla n'a pas renoncé néanmoins à vendre des voitures moins chères, mais ces dernières seront conçues à partir des plateformes existantes. Voilà. Sur Newt, tu peux résumer ce que j'ai dit à ça. En fait, ça dépend. Virer des gens, ça peut inquiéter la bourse. Virer des gens, ça peut plaire à la bourse. Ça dépend, en fait. Ça dépend de la situation de l'entreprise. Mais même si ça déplaît à certains, en tout cas dans une économie de marché, une entreprise parfois a trop de personnel par rapport à la production qu'elle fait. Donc elle n'est pas adaptée. Non, alors j'ai dit low cost, j'aurais pas dû dire low cost, je vais trigger des gens, et vous avez raison, $25,000, ce n'est pas low cost du tout. Mais on va dire que ça... Je m'y connais pas en prix de bagnole. Ça vaut combien une Tesla aujourd'hui? C'est 40K, ouais. 40K une Tesla. Bon, voilà. Pour une électrique, c'est low cost, voilà. Caricature. Enfin, vous avez raison, mais en fait, quand vous gagnez déjà de l'argent avec une entreprise, tu vires des gens, tu augmentes tes marges. En fait, n'ayez pas une vision manichéenne de l'économie trop non plus parce que on vous dit de dire ça. Ça dépend complètement des entreprises. Oui, des entreprises ont viré des gens pour augmenter leurs marges. D'autres, non. C'est parce que justement. Leur marge dégringolait ou leur vente dégringolait, et plutôt que de mettre la clé sous la porte, elles ont dégraissé. Ce que je veux juste vous dire, sans être partisan, c'est que faut pas être manichéen non plus parce qu'on vous dit qu'il faut être manichéen et que toutes les entreprises, c'est des salauds et quand ils virent, c'est qu'ils pensent uniquement à leurs actionnaires. C'est pas vrai, c'est factuellement pas vrai pour toutes les entreprises. Donc, ayez de l'ouverture d'esprit, en fait. Je vous demande pas d'être partisan ou quoi que ce soit, mais vous êtes convaincu de certaines choses, mais on est encore plus convaincu quand on confronte ses convictions aux faits aussi. Voilà. C'est ma petit virage. On revient. Ce qui inquiète le plus là, dans les décisions d'Elon Musk, c'est qu'il aurait licencié plusieurs responsables importants, comme la responsable chargée de négocier l'adoption du NACS comme port de recharge universel. Tesla serait également en train de se débarrasser de toute l'équipe Supercharger, une équipe chargée du développement et de l'installation des bornes de recharge pour les voitures électriques. J'ai lu aussi, mais ce n'est pas dans l'article, qu'il serait débarrassé de toute l'équipe qui vend les batteries là, pour les maisons, qui était un truc déjà profitable chez Tesla. Donc, il est en train de virer des trucs qui marchent chez Tesla. En plus, Rebecca Tinucci et son équipe, Tesla licence également un autre dirigeant, Daniel Ho, responsable du programme véhicule et ancien responsable du programme pour les modèles S, modèle 3 et modèle Y. Enfin, Tesla se sépare d'une grande partie de l'équipe de Juan Patel. Pour information, Juan Patel était le responsable de la politique et du développement commercial, mais il a récemment démissionné de son poste et quitté Tesla. Même si l'ampleur de ces nouveaux licenciements n'est pas claire, Bloomberg avait noté que la réduction totale des effectifs de Tesla, qui a commencé plus tôt ce mois-ci, pourrait finalement atteindre 20% de ses effectifs, soit bien plus de 20 000 employés. Et le problème n'est pas que le nombre des employés, c'est que manifestement, certains secteurs stratégiques de l'entreprise et certains postes clés, Elon Musk, il est... qu'est-ce qu'il fait encore ? Ce mec a quand même une tendance au tabula rasa et à se tirer des balles dans le pied quand même. Hein. Ouais, il a toujours fait ça. Disons que, en fait, Elon Musk est un vrai libéral. Lui, ce qui est important, c'est qu'il montre à tout le monde, et notamment pour faire passer un message en interne, c'est quand même quelqu'un qui dirige ses entreprises un peu par la peur. On va pas se cacher. C'est quelqu'un qui pense qu'il vaut mieux être craint que être aimé en tant que patron. Et du coup, en virant des gens... Vous savez, il y a toujours ce truc en entreprise où certaines personnes se croient aussi invirables, trop indispensables à une entreprise. Oh, ben non, ils ne vont jamais être virés. Et en fait... Elon Musk, il le dit hein, d'ailleurs dans une interview, en virant des gens qui se croient indispensables, j'envoie un message fort à tout le monde. Genre, j'ai peur de virer personne. Ouais. Ouais, la grande phrase « personne n'est irremplaçable », elle est vraie dans l'absolu. C'est plus compliqué que ça. Moi, j'ajouterais que personne n'est irremplaçable, mais une personne qui est bonne dans ce qu'elle fait, elle va manquer et il faut trouver d'autres méthodes pour faire les choses. C'est un peu des grandes phrases « personne n'est indispensable ». Qui a un fond de vrai. Une entreprise ne doit jamais être fragile à dépendre trop de quelqu'un, genre à plus pouvoir exercer son activité si quelqu'un s'en va. Ça, c'est vrai. Une entreprise, c'est très dangereux pour une entreprise d'être trop dépendante de la présence de quelqu'un. Donc en ça, cette phrase est vraie. Mais après, je me méfie un peu de ces grandes phrases d'entreprise classiques. Personne n'est indispensable. Ouais, n'empêche que quand certaines personnes s'en vont, c'est un peu relou, quoi. C'est un peu chiant. En fait, tout dépend à qui tu as affaire. Il y a des employés qui se croient invirables et c'est bien de leur faire, de leur redire, de leur dire non, personne n'est remplaçable. Même en France où c'est compliqué de licencier quelqu'un, si tu me chies dessus ou que tu fais mal ton boulot, j'ai pas peur de licencier. Ça, je suis assez d'accord que c'est quand même un message qui doit être compris des employés. Si, parce que vous pouvez avoir tous les raisonnements sociaux que vous voulez. Je sais, parce que j'ai bossé en entreprise, il y a des gens qui bossent comme des merdes, qui se foutent de la gueule de leur entreprise et qui font perdre de l'argent, perdre du temps à tout le monde et perdre de l'argent à leur entreprise. Encore heureux qu'on puisse virer ces gens-là, quoi. Vous pouvez me balancer toutes les pensées sociales que vous voulez. Quelqu'un doit pouvoir être viré dans une entreprise. En France, c'est effectivement compliqué, mais c'est pas impossible de virer quelqu'un, encore heureux, hein. Si le patron est mauvais, l'entreprise va se casser la gueule, hein, Yves. Oui, c'est juste qu'en France, effectivement, il faut que tu puisses démontrer que ton employé ne remplit pas sa part du contrat de travail, quoi. Je parle des entreprises, hein. M'amenez pas après sur les autres organisations. J'ai un trou. Les fonctionnaires, c'est un autre système de fonctionnement. Mais après, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je suis hyper content aussi en France qu'il y ait plein de limitations pour empêcher les licenciements abusifs. Je ne suis pas pour qu'on arrive à un système à l'américaine, hein. Alors, système à l'américaine, on dit oui, tu es vite viré, mais tu retrouves du boulot très vite. Ouais, il y a plein d'histoires aussi d'Américains. Retrouver du boulot très vite, c'est tu passes de cadre à vendeur dans une boutique de fringues. Non pas que c'est très bien un vendeur dans un... Mais ce que je veux dire, oui, il y a la fluidité du marché du travail, mais aussi, ils ont une culture de... Ils n'ont pas peur de reprendre des jobs. Voilà. C'est une autre culture. Là, tu vois, c'est justement revenir à Tesla qui vire des gens à des postes clés qui sont rentables chez Tesla. On va voir comment la bourse va réagir, hein. Mais Tesla a augmenté la semaine dernière. Je ne mettrai pas ma main coupée que ça va augmenter cette semaine, hein. On verra. Wow, merci à CIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires. Merci Pierrot667 pour ton 41e mois d'abonnement. Merci Ashgar86 pour ton 3e mois d'abonnement. Merci de Servalou pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Déclic43 pour ton 38e mois d'abonnement. Merci Mansiar pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Pat Xirine pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Técur pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs de ce matin. Bref. Je vois que nous sommes partis, mais ça, c'est parce que c'était le 1er mai hier. Nous sommes partis dans des discussions qui n'ont rien à voir avec la tech. Eh ben, on va y revenir tout de suite. On va parler du Rabbit R1 qui est démasqué. Une application en Android, en réalité, que l'on peut installer sur son smartphone. Alors, si vous avez suivi, Human a lancé l'AI PIN, qui a fait un gros flop parce qu'il marche pas, on en a déjà parlé. Et il y a le Rabbit Air 1 qui, lui, est cet objet orange, un peu censé faire la même chose, mais pas tout à fait pareil. Déjà beaucoup moins cher, sans abonnement, il est à 200 euros et il n'y a pas d'abonnement. Et les premiers exemplaires ont été livrés aux journalistes américains. Le verdict est tombé. Ce wearable, comme on dit, AI, est loin d'être terminé. Il manque des fonctions essentielles et il est instable. Donc, pas très prototype. Voilà, pour la faire simple, c'est un prototype encore. Encore un prototype, comme le, comme l'AI PIN. Physiquement, vous le voyez, hein, on dirait un peu une action cam ou un tout petit smartphone carré ou une console Playdate compacte avec un écran tactile de 2,88 pouces, un appareil photo rotatif et une molette de défilement. En gros, il fait la moitié de la taille d'un smartphone. Il a un écran, microphone, un haut-parleur, une molette et une caméra. Et contrairement à un smartphone, par contre, il ne s'appuie pas sur des apps, il s'appuie sur un modèle de langage qu'on appelle un grand modèle d'action, les LAM, les LAM, Large Action Model, qui, en gros, pour vous la faire simple, si vous avez une action complexe à faire, je sais pas, vous voulez réserver une table dans un resto. En même temps qui vous donne le métro pour les transports en commun pour aller à ce resto et la météo pour savoir comment vous habiller pour aller au resto. On va pas au resto à poil. Presque jamais. Hein, quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bref, tout ça pour dire, vous avez une succession d'actions complexes à faire. Sur votre smartphone, vous allez ouvrir mécaniquement l'appli météo, je regarde la météo. J'ouvre après la fourchette ou Google Maps pour regarder les restos. Hop, j'appelle, je le réserve, machin, ou je le fais en ligne, système de réservation sur le site ou à travers une app dédiée. Après, je vais ouvrir mon Google Maps ou mon Apple Plan pour me diriger vers le resto, voir les transports. Bref, vous allez faire une succession d'opérations répétitives vous-même en ouvrant des apps. Là, le principe d'un LAM, c'est que, un peu comme raccourci, il va vous faire tout ça à partir d'une commande. Vous lui dites, voilà, j'aimerais réserver un resto ce soir plutôt comme si. Il faudrait que tu me dises comment y aller et comment je dois m'habiller ce soir. Vous lui dites ça et lui, il est capable d'ouvrir toutes les apps qu'il faut, toutes les bases de données qu'il faut pour vous donner une réponse construite. C'est un peu le principe. OK ? Eh bien, en fait, il s'avère, et on s'en doutait un petit peu, que tout ça, il y a tromperie. En fait, Rabbit Air 1 n'est qu'une appli Android et l'équipe d'Android Authority a réussi à installer, en récupérant l'APK, et ils ont réussi à installer Rabbit Air 1 sur un Pixel 6a et ça fonctionne. Ah ! Ah ! Il y a un problème. Alors, comment est-ce possible ? Tout simplement parce que Rabbit Air 1 est un appareil Android, même s'il est orange et carré, ça tourne quand même sur Android. Bien sûr, l'application Rabbit n'offre probablement pas toutes les mêmes fonctionnalités de Rabbit. Ouais, attention, ça s'ouvre sur un Pixel 6a, mais rendons à Rabbit ce qui est à César. Rabbit, justement, la société a déjà réagi en affirmant que Rabbit Air 1 n'est pas une application Android. Rabbit OS et le LAM fonctionnent sur le cloud avec des modifications très personnalisées de l'AOSP et du micro-logiciel au niveau inférieur. Par conséquent, un APK bootleg local sans le système d'exploitation approprié et les points de terminaison cloud ne pourra pas accéder à notre service. RabbitOS est personnalisé pour le R1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. Alors, en gros, si je comprends bien ce qu'explique Rabbit, c'est oui, ok, vous pouvez installer Rabbit Air One sur un iPhone, sur un smartphone, sur un Android, mais il ne marchera pas. Il ne marchera pas comme sur notre produit. Ouais, mais ce qu'on comprend quand même. Excusez-moi. Je fais tomber le bouchon, j'ai soif ce matin. Mais en fait, on comprend quand même que s'ils avaient voulu, ils auraient pu lancer Rabbit Warren sur un Android comme une appli, au lieu de faire tout un boîtier orange qui est certes marrant, mignon, machin. Pourquoi ils ont fait ça plutôt que de sortir une application sur un Android ? Et la question est légitime. Je vous avais donné la réponse. En fait, c'est pour qu'on parle d'eux. Et ils ont raison. Ils auraient sorti une appli Rabbit Air One, pas Air One, pas le prénom Air One, pas le prénom breton, Air et One derrière. ils auraient sorti juste une appli, ça n'aurait intéressé personne. C'est... En fait, moi, je comprends ce que Human et Rabbit essayent de faire. On va, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo, nos smartphones vont disparaître en 2024. On va basculer dans un nouvel usage du smartphone. L'IA générative conversationnelle va changer votre rapport à votre smartphone. Profondément et fondamentalement. C'est dur à expliquer si c'est au milieu d'appli et d'un fonctionnement normal d'application. Donc, oui, c'est de la com que de les avoir mis dans des boîtiers différent d'un iPhone, mais ça fait passer un message fort, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir des objets qui pourront faire des tâches extrêmement complexes sans avoir toute l'interface et la taille d'un smartphone. Et oui, moi, je pense personnellement que le but de Rabbit et de Human, c'est d'être vendu à Microsoft, à Google et à Apple pour que Apple l'intègre. Je vous dis là, Rabbit Air One, ça serait une excellente base pour une Apple Watch AI générative et conversationnelle. Non, il n'y a pas d'abonnement sur le Air One. Non, c'est pas lancer une seule application. Alors, d'abord, deux choses importantes à comprendre dans la tech. C'est pas parce que ça marche pas bien que ça marchera jamais. Et ça, on l'a vu avec l'IA. S'il y a un truc que vous devez revenir sur ces 2 ans d'IA générative, c'est que on n'arrivera jamais à faire tel ou tel truc avec de l'IA. Boum, 2 mois après, c'est fait. Donc, méfiez-vous quand vous dites oh, ça marchera jamais. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas. Ça va très vite hein, en IA générative et on fait des trucs qu'on ne croyait pas possible il y a encore 2 mois. Hein. Donc là-dessus, je serais beaucoup plus modeste que certains d'entre vous qui affirment que toute façon, les IA mentent, les IA, ça ne fonctionne pas, c'est une mode passagère, ça va faire comme les NFT ou la crypto, plus ça n'intéressera plus personne, c'est une bulle financière, peut-être. Mais alors, je me méfie. Hein. Oh, Samuel m'indique que ACIP Digital en est à 700 abonnements offerts sur cette chaîne. Moi, je dis ACIP Digital, tu es incroyable. Peut-être que ACIP Digital est une IA avec un énorme compte en banque. Oui, il a offert 700 abonnements. Alors, pas ce matin, mais en tout, 700 abonnements. Incroyable. Merci beaucoup, hein, ACIP Digital. Est-ce que tu es programmé pour dire que c'est avec plaisir? Est-ce que ce n'est pas un peu AIIP Digital? Ben un grand, non mais franchement, un énorme merci à toi. J'aime considérer tous nos contributeurs avec équivalence, quel que soit le niveau de leur don, mais toi, tu équivaux à 700 utilisateurs, à 700 contributeurs. Voilà. Donc, voilà. Si tous les employés de Tesla avaient offert des subs à Elon Musk, personne n'aurait été viré. Offrez des subs à votre patron. Ah, idée à creuser. Karina, Yanis, on va en parler. En vrai, je sais que Léo contribue à la chaîne. Bref, pour en revenir à tout ça, c'est pas parce que le truc... D'abord, pour rester factuel, c'est pas parce que tu peux ouvrir une appli Rabbit Air One sur un Android que ça invalide complètement ce qu'ils ont fait, pour moi. Après, ça fait un bon article sur lequel tout le monde clique. Ah, ils s'en foutent une... En fait, tout le monde les attend tellement au tournant, ces deux startups, parce que bah, y a de la résistance. Moi, je vous dis, c'est pas parce qu'ils marchent pas aujourd'hui que c'est pas intéressant ce qu'ils font. Et Human, et Rabbit. Parce que je pense que c'est l'avenir de nos smartphones, d'une partie des fonctionnalités de notre smartphone. La grosse erreur que la presse tech fait, et que eux aussi font, c'est de dire ça va remplacer nos smartphones. Et que moi aussi, je fais. Quand je mets un titre, nos smartphones vont disparaître en 2024, je contribue au moulin à buzz en faisant ça. Bon, je le fais parce que personne ne cliquerait sur un titre nuancé où je dirais « Les smartphones ne vont pas tout à fait disparaître en 2024, mais ils vont changer. » Moi-même, je ne cliquerai pas là-dessus. La grosse erreur, c'est de sortir des produits non finis. Alors, Gouniamam, il y a un truc important à comprendre dans la tech, et j'en parlais dans l'émission de l'âme. En fait, tu peux faire plein de prototypes dans un laboratoire. Il y a un moment où ton produit ne peut pas avancer si tu ne fais pas une sortie de ton produit dans le grand public. Le grand public va faire des choses auxquelles tes ingénieurs n'auront pas pensé. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous dit jamais d'acheter les premières générations de quelque chose. Les premières générations sont... généralement des prototypes, le prototype un peu final d'un produit. Oui, alors je peux vous le dire, hein, ceux qui me disent « Oui, mais peut-être que tu devrais essayer des titres plus francs ou « Moi, je cliquerais dessus » ou tout ça. » En fait, on a essayé. Hein, moi aussi, hein, je pensais que... hein, marche pas, merde, pas du tout. Et ouais, les titres oracoleurs. Pour moi, je garde Putaclic pour un autre type de titre. Pour moi, les titres Putaclic, c'est vraiment des titres menteurs. C'est des titres que la chose qui est dans le titre ne se retrouve pas dans le contenu. Nous, tous nos titres, même quand je vous dis « n'achetez pas l'iPhone 15 », j'en parle dans ma vidéo. C'est, voilà. Mais oui, après, on travaille le titre pour que les gens cliquent dessus. Et nous, on voit les stats en temps réel. C'est dingue. Mais je comprends aussi, hein, les gens ont une micro-fraction de seconde pour décider ce qu'ils vont regarder. Alors, je suis persuadé que certains d'entre vous, c'est l'effet inverse, mais je vous garantis que vous n'êtes pas la majorité. On a essayé, hein, les titres intelligents, les titres factuels, les titres voilà, qui disaient toute la nuance. En fait, c'est plus les titres nuancés. Voilà, un titre nuancé, genre, cet iPhone 15, il est bien, mais il a des défauts quand même. Alors là, les clics. Gros cassage de gueule. J'entends ce que vous dites dans le chat, mais je vous garantis, vous êtes des exceptions. Mais vraiment. La vidéo, les smartphones vont disparaître en 2024, c'est pas le premier titre qu'on avait mis. Mais depuis qu'on a mis ce titre-là, et le cimetière avec les smartphones, elle s'est envolée. Bref. Mais c'est très bien. Hein. Tant mieux si vous êtes des exceptions. Tant mieux, tant mieux. Mais je vous garantis que vous êtes des exceptions. C'est comme les gens qui ne regardent que les vidéos des chaînes auxquelles ils sont abonnés. Je peux vous garantir que vous êtes des super exceptions. On a changé d'aiguillage pour partir voie de garage hors article. Oh, ça va. Ça va. Ouais, putain, il est 9h19. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, t'as raison. Deux articles. Let's go. Un article sur la bourse. La bourse, ça vous passionne, hein? Now bourse. J'allais faire un très mauvais jeu de mots. Amazon triple son bénéfice trimestriel grâce au cloud et à l'IA. Le chiffre d'affaires d'Amazon a grimpé en tout de 13% en un an à 143,3 milliards de dollars, chiffre d'affaires, et son bénéfice net est ressorti à 10,4 milliards. Joli bénéfice, hein, là, quand même. Hein. Plus du triple de l'année dernière à la même période, après le communiqué publié mardi. Alors, je m'arrête là. La grande majorité du chat qui disait « j'achèterai plus jamais sur Amazon, c'est des salauds ». Comment ça se fait qu'Amazon, ils ont triplé leurs bénéfices nets ? Vous étiez majoritairement différents dans le chat. Alors, comment ça se fait ? Vous achetez encore sur Amazon après tout ce que vous avez dit de mal sur Amazon ? Je fais souvent la blague, mais pour que vous compreniez que vous êtes des exceptions. En plein confinement, vous vous souvenez l'espèce de vague anti-Amazon. Amazon, salaud, ils profitent en plus du confinement, machin. Il y a eu une vibe pendant 2-3 mois, boycott Amazon. Et dans le chat, tous les matins, c'était boycott Amazon. Moi, je recevais... ou dans les vidéos, les gens « Ouais, vous mettez encore en avant des liens affiliés Amazon, bande de raclures, de bidets, Naotech, vendus, corpo, voilà. » Ce qui, moi, j'étais là « Waouh !» Ah ouais, là, il y a une vraie réaction anti-Amazon. Hein. Ouh là 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 là. Et j'en parle à mon équipe commerciale. Elle me dit « T'as vu les courbes Amazon en ce moment d'affiliation ?» Je regarde la courbe d'affiliation, on vendait 3 fois plus que d'habitude. On a beaucoup augmenté notre chiffre d'affaires d'affiliation pendant les confinements. Voilà. Donc depuis ce temps-là, je me méfie beaucoup quand vous me dites « Non, non, nous, on clique pas là où... » Voilà. En fait, vous êtes des exceptions, les gars. Vous êtes spéciaux. Le chat, vous êtes spéciaux. Vous n'êtes absolument pas la majorité. Mais vraiment pas. Bref, revenons au résultat boursier d'Amazon. Mais je tenais à faire cet aparté. Le marché guettait surtout les performances du cloud, parce qu'on le sait, hein, aujourd'hui, l'essentiel des profits du groupe, c'est la nouvelle vague d'IA qui est en train de tout bouleverser. Au premier trimestre, AWS, donc la partie cloud d'Amazon, a réalisé 25 milliards de dollars de revenus en croissance de 17%. Donc, c'est vraiment AWS qui drive. C'est pas vraiment le fait que vous alliez encore sur Amazon. Quoique. AWS, donc pour terminer là-dessus, a dégagé à lui tout seul 9,4 milliards de dollars de bénéfices opérationnels. C'est l'indicateur clé de la rentabilité, si vous voulez faire un peu de compta. Soit les deux tiers du total du groupe, dont la rentabilité s'élève à 15,3 milliards de dollars. Amazon.com, donc là où on achète des trucs, se porte bien aussi. La populaire plateforme continue de récolter des bénéfices de sa stratégie de régionalisation des centres de traitement de commandes avec des livraisons toujours plus rapides qui enchantent les clients. Cela lui permet de rester compétitif face aux nouvelles menaces que représentent Temu et Shein, les plateformes de vente chinoises à prix cassé, ajoute l'analyste. Et ça, c'est intéressant parce que oui, Amazon n'est absolument plus l'endroit où on achète pas cher. Vous êtes d'accord? On a même l'impression que ça a augmenté. Et ça a augmenté dans les faits. Hein. Le prix des produits sur Amazon a augmenté. Peut-être pas individuellement, mais la moyenne a augmenté. Mais ce que Amazon a fait est plutôt malin. C'est qu'ils ont localisé des grands entrepôts de livraison pour réduire au maximum les temps de livraison. Et on a beau, moi le premier, hein, j'ai presque tendance à dire qu'Amazon est trop rapide pour moi. J'ai pas besoin d'avoir mon produit le jour même. Moi, tu me le donnes un, deux jours après, voire une semaine après. Ça dépend des produits. Et moi, j'aurais aimé que Amazon me mette un système d'urgence payant et un prime moins cher. J'aimerais pouvoir mieux choisir, en fait. Parce que là, honnêtement, même quand ils nous laissent l'option, c'est en gros, est-ce que vous voulez être livré dans l'heure qui suit, dans l'heure et demie qui suit, dès ce soir ou gratuitement demain matin ? Ouais, ils sont rapides. Et c'est vrai que Temu et Shein ravagent les prix. On va pas revenir là-dessus, mais c'est des prix incompréhensibles, même sur ces plateformes-là. Là où ils sont à perte, c'est au niveau de la livraison. Et c'est pour ça qu'ils livrent généralement assez... C'est beaucoup plus lent. Généralement, il faut attendre une semaine, deux semaines. J'ai voulu privilégier le... Attends, je lis certaines de vos... J'ai voulu privilégier le commerce local au profit d'Amazon, mais des problèmes en cas de défaut, un remboursement. Jamais eu à discuter avec Amazon qui remet... Michi Koya... On a beaucoup parlé de ça. Moi aussi, hein, Et je l'ai fait, par exemple, au niveau alimentation. J'essaie de travailler, enfin de consommer le plus possible chez des revendeurs locaux. Par contre, ce que je me refuse à faire, parce que je reste quelqu'un de libéral, vraiment, vous pouvez dire que c'est de droite si vous voulez, mais en tout cas, je reste quelqu'un de libéral avec la liberté d'entreprendre. Moi, si un service, ils sont nuls par rapport à un autre service, je vais dans le service qui est bon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai certaines convictions qu'il faut garder le marché local, mais pas jusqu'au point de devoir payer trois fois plus cher avec un service de merde. Voilà. Et pour moi, c'est un principe fondamental et important du libéralisme. C'est effectivement encourager les meilleures pratiques commerciales, que ce soit au niveau du prix, au niveau du service, sans aller plus loin que les règles qui sont fixées. Pas de vente à perte, pas mettre en péril les choses comme l'écologie, etc. Mais dans les limites de la pratique commerciale, je suis assez pour que le meilleur gagne. Pour vous expliquer le principe et c'est important qu'on en parle pour Amazon. Moi, je vais chez Amazon, mais je compare avec d'autres. Je compare beaucoup. Et même si j'étais sur un marché physique, voilà, je suis à Vannes, en Bretagne, il y a le marché. Il y a un stand où... qu'est-ce que je pourrais prendre comme... Il y a un stand, c'est des gens, c'est des cousins. Un peu éloignés, mais c'est des cousins. Et le stand un peu plus loin, je ne les connais pas, il n'y a pas de lien de parenté, je n'ai pas d'affection particulière pour eux, mais ils font clairement un meilleur kunyamam. Service chaud, mieux servi, moins cher. Bah, ça beau être les cousins à côté, le choix va être vite fait. Donc, je suis prêt à faire certains efforts pour le Made in France, le Made in local, la boutique du coin, et j'en fais des efforts. Par exemple, je donne l'exemple de la viande. Je mange encore de la viande, mais je ne mange plus de viande de supermarché. J'ai diminué drastiquement ma consommation de viande et je ne l'achète que chez le boucher. J'ai heureusement trouvé un excellent boucher. Voilà. C'est ma tambouille à moi. Mais voilà, je n'achète, alors quand je dis plus, quasiment plus de viande de supermarché. Ça y est, il s'est inventé une famille en Bretagne. Il s'appelle pas Cédric, ton cousin. Ça. Ouais, Ken Borgneck. Doit bien y en avoir. Non, non, mon nom ne trompe pas. Il y a rien de breton hein, dans mon nom de famille. Absolument rien de breton. Donc, voilà, j'ai un degré... Voilà, en étant libéral, je comprends l'importance de maintenir un tissu commercial et industriel, local, etc. Et je suis prêt à faire certains efforts, notamment, par exemple, sur le prix de la viande. Oui, il y a de la viande moins chère, de moins bonne qualité au supermarché. J'en achète moins. En fait, maintenant, la viande me revient moins chère. Quand j'achète de la viande, c'est un bon petit truc maturé chez le boucher, quoi. Donc, Amazon, moi, je vous le dis, oui, on achète encore plein. Alors, raison numéro un pour laquelle j'achète chez Amazon. En fait, en vrai, si on regardait mes achats Amazon, c'est énormément des pièces détachées de trucs. Là, ces derniers temps, on a surtout acheté des bras pour des lampes, des trucs pour le voyage. Et c'est vrai que là, il y a le côté pratique de ne pas devoir aller dans des boutiques photo à Paris. J'avoue que je ne le fais pas. Voilà. Voilà la raison numéro un. Après, oui, je vais parfois chez Amazon parce qu'il y a des produits que je ne trouve pas ailleurs, quoi, en physique. Après, il y a le prix, mais je compare quand même avec d'autres plateformes. Et il m'est arrivé d'acheter des trucs plutôt à la Fnac, plutôt chez Darty, parce que Amazon, ça dépend des produits. Ils ne sont pas toujours les plus compétitifs. Je préfère éviter. Alors, j'évite à tout prix Temu, parce que je ne veux absolument pas créer un compte chez eux. Même en mettant une info mail, Ceux qui mettent des femelles en croyant se protéger en faisant ça, en fait, vous n'avez pas compris comment ça marche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais même si vous faites un faux compte chez eux, c'est pas votre compte qui les intéresse. C'est pas votre mail. C'est votre comportement. Et votre comportement, il est identifiable même avec un faux mail. Voilà. Bref. Donc moi, voilà. Temu, c'est non. Shine, c'est non. AliExpress, je le fais uniquement pour des pièces détachées de... Pour l'instant, les seules choses que j'ai achetées sur AliExpress, c'est soit des pièces détachées que je ne trouve pas sur Amazon, soit des... Parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Des pièces détachées, un peu de contrebande pour mon aspirateur robot chinois. Voilà. Le truc, c'est que Even Vibe, grand bien t'en fasse, mais moi, je reste persuadé d'une chose. Parce que j'ai bossé hein, pour la Fnac quand j'étais en agence. J'ai bossé pour Darty. J'ai bossé pour le Roi Merlin. En fait, j'ai beaucoup bossé avec la grande distribution. Si vous croyez qu'ils sont mieux que Amazon, vous vous fourrez un énorme doigt dans l'œil jusqu'au genou. Vraiment, je vous le dis. Ils sont pas pires, ils sont pas mieux. Hein. La grande distribution, c'est pas un milieu qui est étouffé par la moralité. J'en dis pas plus. Donc, franchement, si vous croyez que boycotter Amazon en allant acheter dans d'autres grands centres et des grandes centrales d'achat et l'ensemble de la distribution, vous pensez être plus moraux, c'est simplement Amazon se fait taper sur la gueule parce que c'est le premier de la classe. Voilà. Donc, je comprends, je respecte votre position. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'Amazon soit pire que les autres. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mieux. Bah, Nérovingien, tu poses la très bonne question. On parle de la défiscalisation d'Amazon. Est-ce que vous êtes allé fouiller? Est-ce que vous êtes allé voir comment est constitué un Darty, un Fnac? Est-ce qu'ils défiscalisent ou pas? C'est pas à moi de vous donner la réponse, à vous de chercher. Je le sais parce que je l'ai entendu à des dîners. Il y a des gens qui croient que la Fnac, c'est français. Hein. Que c'est que français. Et acheter Fnac, c'est un geste civique. Ok. Ok, ok. Bref, la grande distribution et la défiscalisation, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, j'en dirai pas plus que ça. J'en dirai pas plus que ça. Tu sens un truc vibrer, c'est ta montre, il est 9h36. J'ai enlevé cette alerte, Oleg. Elle ne servait absolument à rien. Je suis un peu Marie Kondo, ça sert à rien, je le jette. Hein. Bref, en tout cas, Amazon, ils vont super bien. Et pourtant, la bourse n'est pas super contente. Je vous ferai ça une autre fois, mais en fait, Amazon et la bourse, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Parce que Jeff Bezos a une fâcheuse tendance à ne pas assez... Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Allez voir l'histoire d'Amazon et la bourse. Jeff Bezos, alors je sais, c'est plus le patron, mais on va dire la culture Amazon, c'est de pas trop donner à ses actionnaires. De pas trop faire de dividendes et plutôt de réinvestir dans l'entreprise. Donc, traditionnellement, la bourse a un peu peur d'Amazon. Et ça, ça va vous surprendre. Hein, parce que vous, vous pensez, Bezos, elle est patron d'Amazon, c'est encore des mecs qui pensent qu'à leurs actionnaires. Eh ben non. Eh ben non. Ils vont pas fermer Twitch. Alors ça, c'est pas dit. Parce que c'est pas parce qu'ils vont très bien qu'ils peuvent se permettre d'investir dans des projets à perte. Ad vitam aeternam. Et je vous rappelle que Twitch perd encore de l'argent comme une vache éventrée. Hein. Les GAFAM, c'est pas les meilleures distributions de dividendes. Bah dans le cas d'Amazon, pendant très longtemps, non, t'avais quasiment pas de dividendes sur les actions Amazon. C'était la politique d'Amazon. Non, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus généreux en dividendes à leurs actionnaires hein, que la tech. Hein. Ouais, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus généreux. Hein. Non, il pense pas à sa gueule, Bezos. Il a énormément... Dès que Amazon s'est mis à faire des bénéfices, il les a réinvestis dans son entreprise pour la faire grossir encore plus. Et ses actionnaires étaient là, oh, « Attends, c'est bon, tu gagnes de l'argent, file-en, espèce de rat. » Et il faisait, « Non, non, on va faire grossir encore. » Les actionnaires, « Ouais, mais t'es gentil, moi j'ai ma troisième villa à acheter là en Floride, je veux mes dividendes. » Et parfois, c'est aussi simple que ça. Hein. Si, Apple, maintenant, il y a des dividendes. Mais oui, à une époque, il n'y en avait pas. Il y a Siri qui a entendu qu'on parlait d'elle. Elle me cherche des articles sur les dividendes chez Apple. Et regardez, 2012, toujours pas de dividendes chez Apple. Bim. Ah, vous n'avez pas vu, ma caméra cachait la petite fenêtre Siri qui s'est ouverte. Le monde bancaire, ouais. Parlons des dividendes dans le monde bancaire. Hein. Sortons complètement du sujet de la tech. Allez, on va terminer avec Macron. Quoi ? On en a terminé avec Macron ? C'est trop bien ! Non, nous allons parler du smartphone d'Emmanuel Macron. Parce que on fait de la tech, on fait pas de la politique. Hein. On a le droit de parler que de smartphone ici. Vous le savez. Pourquoi Emmanuel Macron utilise-t-il des smartphones malgré les risques d'espionnage ? On pourrait penser qu'au sommet de l'État, utiliser des appareils de communication grand public comme des iPhones ou des smartphones Android serait strictement interdit. Et pourtant, on a souvent vu, et il y en a plein le web, on voit Macron, il est plutôt iPhone, même si parfois il y a des photos de lui avec des Android. Il en a parfois deux, des iPhones. Il n'a pas forcément le dernier modèle d'iPhone. Mais ce qui est peut-être intéressant, et on en reviendra en fin d'article, il n'a jamais le même iPhone, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais il change souvent de modèle. Alors, certains disent oui, mais il a un OS particulier et tout. Pas exactement ça. Outre les appels et les messages, les smartphones grand public contiennent un nombre incroyablement dangereux de données ultra sensibles. Ce qui, par exemple, la localisation. Vous imaginez le danger ? Surtout, vous le voyez avec les guerres modernes. Les drones sont devenus une arme de guerre. Tu la bloques sur un signal GPS du smartphone d'un président d'un pays. Ça va vite. Voilà. C'est le nouveau type de guerre qu'on va avoir. OK. Donc, on se dit, mais c'est hyper dangereux. Le président de la République française qui se balade avec des smartphones géolocalisés. De là à ce qu'il fasse un Instagram. Hé, je suis là. C'est un peu comme s'il avait une cible sur le dos, quoi. Service de sécurité, goutte de sueur. Un fait empiré par le côté public des membres du gouvernement et du chef de l'État, qui effectivement postent sur Instagram, sur TikTok, etc. Le numéro de téléphone de ces derniers est une donnée partagée avec un grand nombre de personnes. Contrairement à ce que vous pourriez croire, le numéro de téléphone du président de la République, on le sait hein, maintenant, des militants, des journalistes, des diplomates, des entrepreneurs, des anonymes l'ont. Manu 06 06 06 07, il est là le piège. Et oui, il a un agenda qui est consultable sur le site de l'Élysée. En réalité, comment ça se passe les communications pour le chef de l'État ? Dans les hautes sphères de l'État, le smartphone grand public est placé dans une stratégie précise de sécurité des communications. Tous les membres du gouvernement doivent utiliser Olvid, une application de communication sécurisée et n'installer en aucun cas des applications tierces comme WhatsApp. Certains membres de l'État, notamment Emmanuel Macron, ont également accès au système de communication Osiris, un réseau spécifique qui repose sur des appareils très limités en capacité, avec par exemple l'impossibilité d'installer une application sur ses smartphones et qui ne permettent de communiquer qu'avec d'autres appareils du réseau Osiris. Donc c'est pas le premier smartphone venu. Au-delà, la méfiance reste de mise autour de ces appareils. L'accès au Conseil des ministres et autres réunions sensibles est conditionné au fait de laisser son smartphone à l'entrée, ce qui n'empêche pas, comme le soulignent nos confrères de 20 minutes, les services de l'État d'être très vigilants sur les risques sécuritaires posés par l'usage de ces appareils par des personnalités exposées. Le chef de l'État et les ministres continuent d'utiliser les smartphones grand public peu sécurisés. Ces appareils restent essentiellement utilisés pour les communications non sensibles, même s'ils portent en eux des risques supplémentaires comme le partage de la localisation. Le chef de l'État en particulier a accès à un réseau ultra sécurisé Osiris. Les communications les plus sensibles se font toujours de personne à personne derrière des portes closes. Pour vous résumer les choses, ce que je pense, en fait, et c'est pour ça qu'il a des iPhones différents souvent dans la main, vu que effectivement Emmanuel Macron communique sur les réseaux sociaux, ce qui doit se passer, c'est que sa chargée de com lui file un smartphone, mais c'est elle qui le gère. Elle lui file un smartphone, fait ses selfies, il est en public, machin, selfie, truc, je suis au salon de l'agriculture, bim bam boum, hop, il le range à sa chargée de com, qui elle le passe à quelqu'un qui est peut-être dehors, ou je sais pas comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas persuadé qu'il le garde sur lui et que ses smartphones servent pour la com grand public. Ce n'est pas le smartphone avec lequel il va discuter avec les ministres, quoi. En vrai, il y a quand même toute une équipe de communication autour du président et qui gère tout ça. Et je pense que c'est eux, le système de sécurité, doit avoir. Je ne sais pas, peut-être déjà il y a des brouillages. Ils ne vont pas nous dire, de toute façon. Ils ne vont pas nous dire, les gars, on a inventé un truc qui fait une bulle de sécurité de 3 km autour du président, aucun drone, tous les GPS, enfin, j'en sais rien. Mais ils ne vont pas nous dire, de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pour les appels vraiment sensibles, et on le sait notamment avec les histoires d'espionnage russe sur les hommes politiques européens, il ne va pas passer des appels sensibles avec ses iPhones. C'est eux qui se prennent tous les drones sur la tronche, mais on n'en parle jamais. Il y a un mec qu'on appelle Decoy, et lui se balade avec l'iPhone. Tiens, je te file l'iPhone du président. Cours! Cours tout droit, tu cours aussi vite que tu peux. C'est toi qui prends l'aggro. Fonce, je te dis un truc, fonce. T'es au courant que les Russes, maintenant, ils ont des missiles supersoniques. Alors, perds pas de temps, accélère. « Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il a juste NordVPN. Et ça suffit. Je ne suis pas payé pour dire ça. Je n'ai pas besoin de mettre sponsor. NordVPN ne m'a pas encore payé. Ça serait drôle. Non, mais y a un sketch à faire, quoi. Le responsable des iPhones du président de la République. C'est un mec qui court vite. Super vite. Puis on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas vraiment le président de la République. C'est des sosies de Macron. Parce qu'on nous ment. Jérôme, arrête de faire de la pub gratuite. Léo, il ne va pas être content. Exactement. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être l'état profond. Hein, je fais de l'ironie. C'est pas malveillant, machin, tout. Blablabla. Enfin, c'est quand même l'état profond. Sérieux, les mecs. On ne contracte pas ici, nous, monsieur. On ne contracte pas. On ne contracte pas la Terre plate, non. Il faut le savoir, on a des partis pris sur la chaîne, on est excluant, effectivement. Ouais, on est un peu woke. Le mec transporte tellement... Bref, tu sais, je pense que c'est pas faux ce que tu dis, Even Vibe. Le mec transporte tellement de smartphones avec lui qu'il crée un faux bouchon sur Google Maps partout où il va. J'ose espérer que la sécurité... Parce que le nombre de mecs qui se baladent autour du président de la République, ouais, ça doit faire un blip sur des cartes, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont des moyens que ça fasse blipper ailleurs que là où il est vraiment le président? On ne peut que le souhaiter. Après, je pense que... ça se faisait il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, je vous conseille vraiment pas, mais alors vraiment pas, d'essayer de faire décoller un drone à Paris déjà, mais même un peu loin de Paris, faut pas. Hein. Oui, il y a des bidouilles pour le faire. Mais le problème, c'est pas la bidouille. C'est que ça risque de très, très mal se terminer pour vous. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Boris Vian, Macron. C'est pas faux, Wendigo. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi de la sécurité en amont. Il y a probablement toujours des vulnérabilités, mais faire décoller un drone à Paris, je sais pas, mais on n'en voit plus, hein. Les moins de 250 grammes. Je pense que je m'amuserais pas à faire décoller un drone, même à moins de 250 grammes, pas très loin d'un événement où il y a le président de la République française. Je m'amuserais pas à faire ça. Vraiment pas. Bref, voilà, je trouvais ça intéressant quand même, parce que c'est vrai que moi je me posais la question, est-ce que ça ressemble à un iPhone, mais il a un iPhone trafiqué, machin et tout. En fait non, il a plusieurs smartphones, quoi. Tout ça au frais du contribuable, alors super. Ah voilà, alors président de la République, il a plusieurs smartphones, puis alors c'est pas le bas de gamme, hein. Il a pas des Wiko, hein. Oh putain. Ah bah super, voilà où il part l'argent du contribuable. Ouais, ça existe encore, Wiko. J'ai vu que Arcos aussi était en train de redresser la barre. Faut dire, ils ont dû tomber très bas, Arcos. Hein. Mais ils font encore des trucs, des tablettes low cost et tout. Hein. N'empêche, ne pas avoir son propre smart et toute ta correspondance relue, chaud. Ah bah, c'est la rançon de la gloire, hein. Fallait pas chercher à être président aussi, hein, si tu veux pas des merdes comme ça. Hein? Non, mais en vrai, oui, président de la République, t'es au courant quand même que ta vie privée, ça va être... Même pas. Non, en fait, t'en as zéro. Je pense qu'il y a que quand t'es aux toilettes. Et encore. Je pense que si Macron se met à aller trop souvent aux toilettes, on le saura. T'es payé 11 000 euros par mois. Alors là, je peux te dire, sur Newt, mais même, et je le dis véridiquement, hein, tu me payes 1 million d'euros par mois, je refuse d'être président. Mais quel boulot de merde ! Non, c'est hors de question. On se demande plus d'où vient la fuite de Hollande sur son scooter quand il est allé voir sa maîtresse. Ouais, je pense que ça devient plus compliqué, ouais. Tu pourrais aller gratuitement au Japon. Ah, mais tu peux rien faire. Tu peux rien faire au Japon. Tu peux même pas aller au parc Ghibli sans que tout le monde le sache. Bon, c'est un autre, mais... on arrive tranquillou à 10h, ce qui n'est pas bien, parce que normalement, c'est trop tard, mais on est encore là. Que dois-je vous dire ? On va terminer ce mug en douceur. Ce soir... J'ai du mal, putain, parce que j'ai du mal à me dire qu'on est jeudi. J'avais l'impression que c'était dimanche hier, enfin bon. Que vous rappelez d'important, ce soir, jeudi, contributeur. Jeudi, contributeur à 18h. Demain, le mug. La semaine prochaine, il y aura le mug, mais c'est la dernière semaine avant une coupure de plus de 5 semaines, je crois. Parce qu'on reprend le 24 juin. Effectivement, on sera au Japon. Donc, je n'ai pas voulu m'engager sur des lives parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que d'abord, il y a une partie du voyage, c'est des vacances. Il y a 15 jours, c'est des vacances. Il y a 3 semaines de boulot, il y a 15 jours des vacances. Mais les 3 semaines de boulot, vu que ce n'est pas les mêmes heures et tout, je n'ai pas voulu m'engager sur des lives. Donc, peut-être que je vous ferai des coucous. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et... enfin, les réseaux sociaux, on donnera des petites news. Mais je ne voulais pas m'ajouter un stress et une contrainte supplémentaire avec des lives faits sur place. Donc, on verra. Donc, la semaine prochaine, non, je serai là jeudi. Oui, c'est ça que je voulais préciser, Grolm, tu fais bien. Même si c'est férié, je vais faire une entorse à la règle. Je serai là jeudi. Parce que je travaille en fait. Je travaille jeudi et vendredi, moi je travaille. Je prends pas de jours fériés. Donc on sera peut-être trois hein, à regarder le mug jeudi matin, mais moi je serai là. C'est quoi ? Non, c'est mercredi et jeudi qui sont fériés la semaine prochaine. Et moi je travaille le mercredi et le jeudi. Mais il n'y aura pas de mug le mercredi. Je suis en train de vous embrouiller là. La semaine prochaine, il y aura un mug mardi, il y aura un mug jeudi. Et il y aura un mug vendredi. Rien à foutre des jours fériés. Voilà. Ouais, je crois que mercredi, c'est férié, ouais. Non ? Il n'y a pas un truc ? J'avoue que je n'ai pas suivi trop les jours fériés. Mais je crois que mercredi, c'est... Mercredi, jeudi ? Effectivement, fais pas président de la République ou alors avec un bon porte-parole. Ouais. Oui, le 9 mai, ça dépend des entreprises, en fait. Bah moi, ni le 8, ni le 9, je prends 2 jours. Mercredi, c'est l'armistice. Et jeudi est férié aussi. C'est une fête religieuse. C'est l'Ascension, non? Ou un truc comme ça. Oui, c'est l'Ascension, jeudi. C'est ça. Oh, on connaît plus ces fêtes religieuses, hein. Oh là là, tout se perd, hein. Oh mon Dieu. Allez, sur ce, on se quitte vraiment. Si je commence à partir dans des imitations de vieux cons, ça va me déteindre dessus. Je vous fais des gros bisous. On va bien évidemment faire un petit raid. Un petit raid. Un petit raid. Un petit raid. Petit raid. Bon, un petit raid chez Frandroid. Allez, petit raid chez Frandroid. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve ben, demain pour le mug. Ciao tout le monde!